Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Je vous souhaite un très agréable sabbat. Jésus savait que nous aurions le désir de connaître quand il reviendrait, le moment de son retour. Il veut bien entendu que nous puissions anticiper, que nous ayons hâte de voir ce jour grandiose, unique dans l'histoire de toute l'humanité. Jésus désire que nous puissions prier son Père pour son retour, le retour de Jésus-Christ. Autrement dit, que nous ayons nous-mêmes ce désir chaque jour de prier pour qu'il revienne, comme lui-même éprouve aussi ce désir d'être avec nous, d'être parmi nous, dans le royaume de son Père, dans son royaume sur terre, et de boire avec nous le vin des retrouvailles. Le vin des retrouvailles, bien entendu, cette expression n'est pas dans la Bible. Cependant, Jésus-Christ y fait mention. Et nous trouvons cette expression sous une différente forme dans Matthieu chapitre 26. Reportons-nous-y un instant. Matthieu chapitre 26, à la fin de l'évangile selon Matthieu, c'est le moment de la Pâque. Précisément, Matthieu 26, et au verset 29, Jésus fait cette déclaration. Matthieu chapitre 26, verset 29, il dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors, c'est une parole, je le disais, qui a été prononcée lors de la dernière Pâque de Jésus sur terre, mais il parlait bien sûr du fruit de la vigne en général, plutôt que dans un contexte, ou plutôt dans un contexte futur, donc de retrouvailles. Peut-être un banquet, pas nécessairement le vin de la Pâque, et Christ a ce désir, il a hâte de retrouver ses frères et sœurs dans le royaume. Mais quand on pose la question aux gens, que dit la Bible? Que dit la Bible à propos du retour de Jésus-Christ? Que dit-elle? Nous avons tous, bien entendu, cette question au fond de nous-mêmes. Quand Jésus reviendra-t-il? Quand reviendra-t-il? Vous savez, l'historique des prédictions du retour de Christ au cours des siècles est tout à fait impressionnante. La première date qui a été évoquée par des théologiens remonte à l'an 500 de notre ère. En l'an 500. C'est une prédiction. C'était une prédiction. L'an 500, c'est la dernière année du 4e siècle de notre ère, la première année étant l'an 501, concernant le 5e siècle. Eh bien, trois théologiens à cette époque, au 4e siècle, ont prédit que Christ reviendrait en l'an 500. Ils s'étaient mis tous les trois d'accord sur cette date précoce. Et nous savons bien sûr que toutes ces dates, depuis le Moyen-Âge, on peut dire que chaque siècle a vu des prédictions, plusieurs prédictions. Toutes, bien entendu, se sont révélées fausses. Christ n'est jamais revenu dans la gloire. Mais, vous savez, la mécanique, même aujourd'hui, est bien loin de s'être enrayée. Nous continuons de voir encore des individus tenter de prédire la date du retour du Messie sur Terre. Et certaines de ces prédictions, actuellement, s'étendent même jusqu'en 2057. Semble-t-il, mais sans doute cette limite, nous pouvons être confiants, sera probablement dépassée. Tellement l'enthousiasme des amateurs de prédictions semble inextinguible. Il est difficile de comprendre cette sorte d'acharnement, d'autant plus que la Bible est extrêmement claire sur ce sujet. Que dit-elle? Que dit la Bible? C'est elle qui détient la vérité sur le retour de Jésus-Christ. Une vérité sur laquelle nous pouvons nous appuyer avec confiance. C'est la parole de Dieu. Dieu a bien voulu révéler un certain nombre de choses à ses disciples, à ses enfants, de nos jours, pour que nous puissions connaître un certain nombre de détails. Mais il n'a pas tout donné. Deux questions se posent à nous et aux lecteurs de la Bible concernant le retour de Jésus-Christ. Deux questions. La première, la Bible révèle-t-elle si Christ reviendra, oui ou non, sur terre? Et deuxième question, si Christ reviendra, si Jésus reviendra, eh bien, La Bible nous dit-elle s'il est possible, encore une fois, de savoir si oui ou non il est possible de donner une date et une heure. Commençons donc par la première question. Tout d'abord, la Bible, donc, nous dit-elle si Jésus-Christ reviendra sur terre. Nous savons bien, en lisant plusieurs passages bien connus, dans Matthieu par exemple, chapitre 24, que Christ a prédit que oui, c'est bien le cas, il reviendra. La Bible annonce bien que Jésus-Christ reviendra sur terre. Et non seulement elle l'annonce, mais elle confirme aussi cet événement historique sans précédent dans de nombreux passages bibliques. À cette question précise, le Christ reviendra-t-il sur terre ? La Bible répond donc oui. Elle donne l'endroit précis, en plus, à quelques centaines de mètres près de son retour sur terre. C'est très précis. Et elle donne des circonstances fracassantes qui accompagnent ce retour, avec notamment un cataclysme géologique sans précédent, formidable, capable de créer une vallée toute neuve entre deux montagnes. Elle donne aussi les effectifs époustouflants d'une coalition militaire gigantesque telle que l'histoire humaine n'en a jamais vue auparavant. Et elle donne en plus bien d'autres détails que j'espère pouvoir couvrir en quelques mots, en tout cas pour chacun d'entre eux, au cours de ce message. La dernière fois que les disciples ont vu Jésus parmi eux, ou même des êtres humains, c'était au Mont des Oliviers. Rappelez-vous, quelque temps après la crucifixion et la résurrection des morts, Jésus était apparu plusieurs fois aux disciples, en diverses occasions, pour les soutenir, pour les encourager, et aussi pour se faire reconnaître, pour se faire identifié, bien sûr. Rappelez-vous notamment son échange, sa discussion avec Thomas. Ils avaient besoin de ce soutien, ils avaient besoin de cet encouragement. Reportons-nous à ce passage dans le livre des Actes, au chapitre 1. Actes, chapitre 1. Et allons au verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Où nous lisons « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Et Christ parle ici, bien entendu, du baptême du Saint-Esprit qu'il devait recevoir d'ici quelques jours, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Verset 8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Christ donne donc à ses apôtres, à ses envoyés, ses apostolos, donc apôtres, c'est le mot grec donc qui signifie un envoyé, il leur donne sa feuille de route, en quelque sorte. Voilà votre mission, voilà ce que vous devez faire, soyez mes témoins dans ce pays et dans le monde entier. Et suite à ces mots, Christ s'en va, il part, il disparaît de leurs yeux rapidement. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Le moment des au revoir était arrivé. Il est soudainement écourté en plus. Et on pourrait se demander, mais pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, dans d'autres conditions, par exemple, rappelez-vous, avec des effusions, avec des embrassades, avec des pleurs, comme on le voit par exemple dans le cadre de l'apôtre Paul, avec les anciens d'Éphèse. Rappelez-vous, il les quitte, et c'était bien la coutume de l'époque. Les émotions étaient là. Mais ici, on peut se dire que ce moment aurait pu être similaire dans le cas de Christ et des apôtres, et déchirant émotionnellement. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ voulait. Bien sûr, je ne fais qu'avancer une spéculation, une possibilité. Peut-être donc, valait-il mieux que leur séparation se fasse très rapidement. Lisons au verset 10, où il est dit à ce moment-là, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, qui vient juste de disparaître, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, leur apparure, verset 11, et dire « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors même que ses disciples se tenaient là sur le mont des Oliviers et regardaient Jésus pour la dernière fois, montant au ciel et disparaissant derrière une nuée, deux anges viennent leur annoncer la prophétie de son retour dans le futur. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est une simple phrase, mais d'une portée prophétique, d'une puissance prophétique absolument extraordinaire. Nous sommes là, au Mont des Oliviers. C'est le lieu du retour du Christ qui nous est révélé ici par la parole de Dieu, parole de vérité. Le Mont des Oliviers. Et le récit en fait mention. Fait mention ici, donc aussi, d'une apparition soudaine de deux hommes vêtus de blanc. Donc c'est clairement un phénomène surnaturel qui vient de Dieu. C'est pourquoi ces deux hommes sont en fait des messagers de Dieu. Ils n'étaient pas là, ils sont apparus, ils apparaissent devant eux de façon surnaturelle. Des messagers de Dieu, donc en grec, le mot messager, donc angelos, ce sont des anges. Ce sont des anges, ce ne sont pas des êtres humains. Ils ont l'apparence de deux hommes, bien entendu, pour ne pas que les disciples soient effrayés. Mais nous savons que les anges de Dieu se manifestent sous forme d'êtres humains, peuvent se manifester devant les hommes et sous forme d'êtres humains, sans pouvoir être même reconnus. Les disciples, quelques semaines plus tôt, avaient posé à Jésus-Christ cette question. Dans Matthieu chapitre 24, il lui avait demandé, quel sera le signe de ton retour? Il voulait un signe, il voulait savoir comment est-ce qu'il pourrait savoir qu'il allait venir. Le signe de ton arrivée et, est-il dit dans la Bible de Lausanne, de l'achèvement du siècle. Certaines traductions disent de la fin du monde. Mais ici, dans la Bible de Lausanne, nous avons vraiment une bonne traduction. Sans équivoque, on y parle de la fin d'une époque. C'est le sens du mot dans le grec original. C'est le sens de l'expression. Quand certaines versions disent quel sera le signe de la fin du monde, c'est quelque chose qui prête à confusion. Précisément parce que cette expression laisse supposer que ça y est, c'est la fin du monde, c'est la fin de tout. La planète est ratiboisée. Et à la limite, et nous pourrions même presque imaginer que nous serions éparpillés par petits bouts dans le cosmos. Mais non, bien sûr, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Dieu, d'ailleurs, ne s'est pas donné la peine de créer la terre qu'il a magnifiquement réalisée, justement, pour l'humanité, pour la laisser finir dans un état délabré, vitrifié, voire même pulvérisé. Bien sûr que non. D'ailleurs, Jésus a bien déclaré ces choses, soyons logiques. Il a bien dit qu'il reviendrait pour abréger le règne de l'homme sur l'homme, afin que l'humanité soit secourue, soit sauvée d'elle-même, sauvée de son annihilation totale par elle-même. Une humanité qui, rappelons-le, depuis les années 45 à 50, avec la bombe à hydrogène, a effectivement la capacité inédite de s'annihiler elle-même, de s'auto-annihiler, de s'auto-détruire. Nous le savons très bien. Nous le savons bien. Christ va revenir dans ce but, éviter ce destin funeste et misérable pour l'humanité, pour empêcher l'humanité de se détruire. Premièrement, c'est la première raison de son retour. Et puis deuxièmement, bien entendu, pour commencer le rétablissement de toutes choses, pour montrer comment Dieu gouverne. Et c'est là que l'humanité va commencer à réaliser qui est Dieu. Et que Dieu, effectivement, est, que l'Éternel est Dieu. Qu'il est puissant, qu'il est grand, et que son règne n'aura pas de fin. Donc le formidable destin de toute l'humanité. Et les disciples et les apôtres savaient que Jésus-Christ était né pour être roi, et roi du monde, roi de toute la terre. Et qu'il reviendrait pour établir l'ère du royaume de Dieu, non pas seulement sur Israël, mais sur toute l'humanité, sur la terre entière. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas exactement quand, et ils ne savaient pas non plus à quoi s'attendre, quels seraient les signes de son avènement, dans quelles conditions, dans quelles circonstances, comment allons-nous savoir que ça y est, ça va bientôt arriver. Et avant son arrestation, avant sa crucifixion, Jésus a révélé des détails époustouflants. Les détails époustouflants des circonstances de son retour. Il a donné force aux détails. Il en a donné beaucoup. Donc nous allons les voir. Et nous trouvons sa réponse détaillée au questionnement des disciples, donc à ce sujet, dans trois des quatre évangiles, dans Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21. Jésus avait souvent, d'ailleurs, l'habitude de se faire appeler le Fils de l'homme. Et nous le lisons à plus de 80 reprises dans les trois évangiles, dans les quatre évangiles. Il leur dit lui-même, d'ailleurs, à propos de son retour, « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Donc, lisons-nous dans Luc chapitre 21, verset 27. Alors, imaginez cela. Imaginez la puissance, imaginez la grande gloire du retour de Jésus-Christ. C'est quelque chose d'unique. Il faut essayer de se représenter cette chose, des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Parce que, ici, précisément, dans ce chapitre de Luc, chapitre 21, et dans les autres chapitres que j'ai mentionnés, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des sentiments dans notre cœur, Christ va revenir dans notre cœur. Non, il s'agit d'événements particulièrement impressionnants. Il n'est nulle question de petites paroles vaporeuses, sentimentales, mentales, intellectuelles, que sais-je. Non, il s'agit d'événements historiques, d'un événement historique sans précédent. Et c'est le Christ qui parle, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, et il dit « Je reviendrai ». Je reviendrai. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de généraux, beaucoup de militaires, beaucoup de chefs, de commandeurs et, on va dire, de responsables militaires qui ont dit « je reviendrai ». Des généraux qui, en général, étaient sur le départ, et pour des raisons stratégiques, on peut le comprendre, et qui ont déclaré « ça, mais je n'en ai pas fini, je reviendrai ». Je reviendrai un jour, et je reviendrai un jour victorieux. Le général de Gaulle est peut-être l'homme d'État et le militaire auquel les Français, par exemple, pourraient penser. C'est peut-être l'exemple le plus frappant pour eux. Lui qui, de Gaulle, a été condamné à mort par contumace, alors qu'il était membre du gouvernement, il a décidé de se battre, de continuer à se battre, et pour cela, de se rendre à Londres, en Angleterre, pour y fonder la France libre. Vous savez, l'un de mes pasteurs, dans ma jeunesse, était le défunt pasteur aujourd'hui Jean Carion, pasteur d'une église de Dieu il y a plusieurs décennies. Il établissait dans l'un de ses sermons le parallèle entre, d'une part, le combat de la résistance française et de la France libre, lui qui était lui-même résistant, et donc à cette époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1940 et 1945, et l'histoire de l'Église que Jésus-Christ a fondée. Et je me rappelle encore de ce sermon, c'est quelque chose de très marquant. Il y a tellement de parallèles entre les deux histoires, que ce sermon était particulièrement saisissant. Pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas l'exemple de la France libre que je voudrais évoquer, afin d'illustrer mon propos. Dans ce message, il existe un autre général, un général allié à l'époque, un général américain, qui a voulu dire exactement la même chose. « Je reviendrai ». Il disait en anglais « I shall return ». En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, rappelez-vous, comme nous le savons, le Japon est entré en guerre contre les États-Unis. Que s'est-il passé après l'incroyable défaite américaine de Pearl Harbor? Rappelez-vous, en décembre 1941, l'essentiel de la flotte de bataille américaine est détruite. Et en quelques semaines seulement, le Japon va envahir ce qu'il appelait à l'époque dans son plan sa sphère de coprospérité. Et cela veut dire que le Japon va envahir quasiment l'intégralité de l'Extrême-Orient. En quelques semaines, les troupes impériales nippones envahissent donc pratiquement tout. Rien ne peut leur résister, même pas la présence américaine dans les Philippines. Les Américains, les Britanniques et leurs alliés français et hollandais évacuent tous les territoires colonisés ou avec une présence militaire dans la plus grande débâcle que l'Asie ait jamais connue, très franchement, l'Asie du Sud-Est. Et les Australiens eux-mêmes s'attendaient dans les semaines, dans les mois à venir, à une invasion japonaise de leur territoire. La situation est alors gravissime. Nous sommes début 1942, les choses vont très très mal, et le commandant des forces armées américaines en Extrême-Orient, le général Douglas MacArthur, reçoit l'ordre du président Franklin Delano Roosevelt de se replier pour le moment en Australie, pour y continuer le combat. Et avant de quitter les Philippines, il se trouve alors dans la péninsule de Bataan, et il prononce un discours historique célèbre dans lequel il déclare ceci: « Je suis parti de Bataan, mais j'y retournerai. I shall return. » Une expression qui, à l'époque, fit les gros titres des journaux, les manchettes des journaux. Et deux ans et demi plus tard, effectivement, le 20 octobre 1944, MacArthur débarque à nouveau aux Philippines, aux côtés du président philippin, en conquérant victorieux, avec derrière lui la puissante 6e armée américaine, avec l'aviation, avec les troupes mécanisées, avec la marine. Tout est là et les Japonais sont obligés de reculer à nouveau. Et dans sa déclaration, Douglas MacArthur dit ceci, écoutez bien, il dit « Je suis revenu par la grâce du Tout-Puissant, nos forces foulent à nouveau le sol philippin. » Alors on voit ici clairement le parallèle assez étonnant avec la promesse du retour du Fils de l'homme, le Messie. Et encore une fois, beaucoup d'autres exemples historiques similaires pourraient illustrer un tel parallèle. Celui-ci est particulièrement saisissant à cause de la déclaration du général Douglas MacArthur, « I shall return ». Et nous verrons que cette déclaration est exactement celle de Jésus-Christ à plusieurs reprises dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Alors, parlant du retour du Messie sur terre, le livre de Zacharie, j'en parlais tout à l'heure, mentionne exactement l'endroit, confirme l'endroit que je vous donnais dans le livre des Actes au chapitre 1. Il dit ceci, « En ces jours-là, ses pieds se poseront. » Se poseront où? Nous l'avions vu. Sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem du côté de l'Orient. C'est exactement l'endroit où nous avons vu deux hommes apparaître aux disciples et leur dire « Ce Jésus qui est parti au ciel, qui a disparu de votre présence, reviendra dans les mêmes conditions. » Donc c'est bien dans le même endroit. Jésus nous donne même une raison essentielle pour laquelle il revient. Nous l'avons vu. Il faut que Jésus revienne parce que l'humanité risque de se détruire elle-même. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 22, il déclare ceci, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » On parle ici d'un salut physique. On ne parle pas d'un salut spirituel, comme certains pourraient le dire ou le penser. Non, Moïse, nous l'avons vu lors de la transfiguration, est déjà dans le royaume, en quelque sorte. C'est une vision du futur. Donc il est sauvé. Élie, qui apparaît avec Moïse, à Pierre, à Jean, aux côtés de Jésus, est sauvé lui aussi. Il est déjà dans le royaume. Donc, quand Christ dit « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé », il ne parle pas d'un salut spirituel. Il parle bien d'un salut physique. Christ revient pour empêcher l'humanité de s'auto-détruire. Personne vivant actuellement là, à ce moment-là, ne sera détruit, si vous voulez. Il y aura un reste, c'est ce que ce verset veut dire. Personne, si je ne revenais, personne ne serait sauvé. Autrement dit, il y aura un reste qui sera sauvé. Alors, Jésus a encouragé, évidemment, ses disciples en disant quatre fois, « Je viens bientôt. » Je parlais, « I shall return », les mots de Douglas MacArthur. Lui-même, Christ, a dit, par l'intermédiaire de Jean, quatre fois, « Je viens bientôt. » Reportons-nous dans le livre de l'Apocalypse pour précisément lire ces déclarations. Apocalypse chapitre 3, c'est le message aux sept églises, et en particulier à l'église de Sardes, si ma mémoire est bonne. Apocalypse chapitre 3, et lisons à partir du verset 10. Donc c'est bien l'église de Sardes. Et Christ lui dit cette chose, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, toute la terre. » Verset 11, « je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Et au dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, le dernier chapitre du Nouveau Testament, le dernier chapitre de la Bible en quelque sorte, il est dit ceci, Apocalypse chapitre 22, verset 6, il parle, à ce moment-là, c'est la conclusion, hein, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Versets 11 à 12, il répète cette expression, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Et enfin, verset 20 du même chapitre, donc l'avant-dernier message, l'antépénultième message de la Bible, le pénultième, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. » Donc c'est le dernier message, le dernier verset de la Bible. Il nous est dit, « Je viens bientôt. » Au total, à quatre reprises, Christ dit, « Je viens bientôt, je reviendrai. » Alors, au milieu des détresses, au milieu des épreuves que nous pouvons vivre, nous pouvons nous retrouver effectivement réconfortés. Nous pouvons être fortifiés par le fait de savoir que, pour Dieu, le moment de son retour sera bientôt. Ses disciples, au premier siècle, étaient fortifiés eux-mêmes par ces paroles. Ils se sont retrouvés fortifiés, avec cette assurance de savoir qu'il reviendra. Il reviendra bientôt. Tous les disciples de l'époque de Christ, du premier siècle de notre ère, tous ces disciples sont morts. Mais ils sont morts avec ce grand espoir de savoir dans leur cœur que Christ revient bientôt. Soyons patients. Souvenons-nous que Dieu est éternel et que sa perspective sur le temps est différente de la nôtre. Quand il dit « je viens bientôt », quelle est la signification du mot « bientôt » pour Dieu ? De nos jours, que pouvons-nous savoir au sujet de cette signification ? Cela se produira-t-il dans de notre vivant ? Dans moins d'une décennie, dans moins de deux décennies ? Comment pouvons-nous comprendre, comme les disciples du premier siècle comprenaient ce que Dieu disait ? Comment peut-il dire « je viens bientôt » ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'en est-il aussi des signes qui accompagneront l'avènement le second avènement de Christ ? Les événements annonciateurs, les événements avant-coureurs, y en a-t-il ? Avons-nous, en quelque sorte, des signes qui nous disent, voilà, ça y est, ça va bientôt arriver, nous pouvons commencer à compter les années et nous dire que voilà, c'est probablement aux alentours de cette année, peut-être, que Christ reviendra. Sans réponse ferme et définitive, sans calcul malicieux, non, La réponse ici est oui, nous pouvons voir des signes avant-coureurs. Nous comprenons que le second avènement de Christ est l'événement pivot dans l'histoire de l'humanité. C'est un événement d'une importance considérable, primordiale, cruciale. C'est le temps du rétablissement de toutes choses, telles que depuis le début de l'humanité, dans le Jardin d'Éden. Pour la première fois, le gouvernement de Dieu est établi sur terre, avec Dieu à sa tête, dans sa plénitude. Vous savez, les grands règnes de l'humanité, les grands empires, ont été annoncés, eux aussi, par des signes précurseurs notables. Prenons par exemple la destruction de l'armée assyrienne devant Jérusalem. Cela annonçait d'une façon, on peut dire, stratégique, logistique, évidente à toutes les nations, quelque temps plus tard, qu'un autre grand empire allait englober, bien entendu, et devenir l'empire assyrien, et devenir le plus grand empire mésopotamien. Je veux parler de l'empire néo-babylonien, qui est d'ailleurs la tête d'or de la statue de Daniel, de la statue rêvée par l'empereur Nebuchadnezzar. L'écriture sur la muraille aussi est un autre signe révélateur de l'apparition d'un autre empire. Rappelez-vous, le roi Belshazzar est là, en train de s'enivrer, et une main vient écrire une prophétie le concernant directement, juste avant l'avènement de l'empire médo-perse. Et ainsi de suite. On peut multiplier les exemples. Combien d'empires sont tombés, ainsi laissant place à une nouvelle dynastie, parfois étrangère, peu de temps après un certain nombre de signes annonciateurs. Jusqu'à la suivante, qui, bien entendu, prendra la place de l'empire précédent. Et considérons maintenant les signes que Jésus-Christ a donnés, concernant cette fois-ci le royaume de Dieu, un royaume qui, lui, n'aura pas de fin. Reportons-nous à la prophétie du mont des Oliviers dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, nous avons l'habitude de l'appeler la prophétie du mont des Oliviers. Elle est souvent aussi appelée dans les Bibles le discours sur le mont des Oliviers. Matthieu chapitre 24 et commençons au verset 2. Le contexte, c'est celui des disciples qui admirent le temple magnifique que le roi Hérode le Grand avait rénové. Il avait ce temple des pierres monumentales et Jésus les écoute et puis il leur dit ceci. Il les surprend d'ailleurs dans son commentaire. Verset 2, il leur dit « Mais vous voyez tout cela ? Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Donc il faut bien garder cela en mémoire. Le temple de l'Éternel n'existe plus, il n'est plus visible, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Et c'est alors que, verset 3, les disciples sont interloqués et il s'assit, donc Christ s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier, donc ils sont en quelque sorte dans un endroit privé où ils peuvent lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, il y a d'autres versions qui disent l'achèvement du siècle, qui est une meilleure traduction, j'en avais parlé. Mais tout au long du chapitre de Matthieu 24, Jésus-Christ va répondre à leurs questions. Il va leur donner, il va énumérer des événements qui devront se produire avant son second avènement pour rétablir le royaume de Dieu sur terre. Il va leur donner une quantité de détails assez impressionnante. Alors, de mémoire, nous pourrions certainement citer un certain nombre de signes avant-coureurs que Christ va leur donner. Disons des signes précurseurs, annonciateurs d'une tendance générale qui se développe, qui va mener jusqu'à l'apparition de signes encore plus significatifs, encore plus rapprochés par rapport au retour proprement dit de Christ sur terre. Que voyons-nous aujourd'hui, par exemple? Nous voyons des guerres, nous voyons des rumeurs de guerre, nous voyons des famines Actuellement, au Soudan, dans le Darfour, il y a une famine qui sévit et qui est extrêmement grave. Il y a eu, au cours de l'histoire du XXe siècle, du XXIe siècle, des familles terribles, des famines terribles, notamment en Afrique. Nous avons vu encore récemment une pandémie internationale au cours des années 2020 et 2021 se développer pratiquement dans tous les pays. Mais la fin, visiblement, la fin et l'avènement de Jésus-Christ ne sont pas encore là. Ces choses ne sont pas encore arrivées. Il faut encore qu'il y ait, notamment, nous en parlerons, l'abomination de la désolation, que j'ai mentionné d'ailleurs dans plusieurs sermons précédents. Tout cela n'a pas encore été établi. Nous avons parlé très souvent de l'abomination de la désolation. Nous parlons aussi de la grande détresse. La grande détresse, visiblement, n'a pas encore commencé maintenant, tout au moins lorsqu'on la compare, on compare les conditions actuelles à la description de la grande détresse dans la Bible. Jésus a dit qu'après cette grande détresse, il y aurait des signes célestes. Et puis qu'au son d'une grande trompette, la dernière trompette, la septième trompette, alors c'est alors que Christ reviendra. Donc, lisons ce passage dans Matthieu chapitre 24 et le verset 29. Il y a aussitôt après ces jours de détresse, donc la grande détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Certains prétendent que Christ reviendrait secrètement, mais il n'existe aucune preuve biblique de cette théorie selon laquelle Christ reviendrait secrètement. Là, nous venons de voir que c'est quelque chose qui est éclatant, que tout le monde peut voir. Au contraire, ce retour secret, avant de la grande détresse, n'est pas prouvé par la Bible. Ce que la Bible enseigne, c'est exactement le contraire, ce que nous venons de lire, un retour éclatant que tout le monde verra. Avant le début de la période, la période de la grande détresse, nous pouvons savoir que Christ reviendra, donc au moment où la grande détresse va commencer, nommément, nous pouvons savoir que le retour de Christ interviendra aux alentours de 3 ans, 3 ans et demi à peu près. C'est tel qu'il nous l'est dit dans Apocalypse chapitre 11, versets 2 et 3, et Apocalypse chapitre 12, verset 14. Donc ces dates nous sont données, cette durée, ce laps de temps nous est révélé. Cependant, au-delà de ces choses, nous ne pouvons pas connaître exactement le jour et l'heure du retour de Jésus-Christ. C'est un événement soudain, c'est un événement glorieux, et nous ne pouvons pas en connaître ni le jour ni l'heure. Pourquoi ? Verset 36, toujours dans Matthieu chapitre 24. Christ dit la chose suivante : pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il prononce ces mots-là à cette époque, en l'an 31 de notre ère. Donc, évidemment, depuis, le Fils de Dieu connaît-il le moment et le jour et l'heure exact de son retour ? Nous ne le savons pas. Mais à ce moment-là, il ne le savait pas. Les anges des dieux dans les cieux ne le savaient pas. Nous ne le savons pas. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas les connaître. Nous ne pouvons pas connaître l'heure exacte du retour de Jésus-Christ, le jour. Clairement, Dieu ne désire pas que nous le sachions, et nous pouvons comprendre pourquoi. Nous pouvons le savoir. Dieu veut que nous ayons cette hâte en nous, cette anticipation, ce désir, et en même temps, cette préparation, cette volonté de vouloir être prêt tous les jours de notre vie, pratiquement, et de nous préparer de mieux en mieux. Et oui, il faut bien le dire, cette attente, afin que aussi nous puissions prier notre Père Céleste pour que nous soyons prêts ce jour-là, et aussi que nous puissions aussi développer en nous cette patience, cette attente, ou plus exactement cette patience dans l'attente. Vous savez, lorsque de faux prédicateurs annoncent une date, une année, un jour, ou même une date précise pour, disent-ils, la fin des temps, le temps de la fin ou l'avènement de Christ, la fin du monde, cela ne fait qu'ajouter à l'eau du moulin de ceux, des détracteurs de la Bible, de ceux qui, des moqueurs, des sceptiques. Et cela ne fait que nourrir leur amusement, en quelque sorte. Ils ne peuvent se dire qu'une chose, c'est que les chrétiens croient des choses qui ne risquent certainement pas d'arriver. Par conséquent, voyez-vous, il n'est pas surprenant de voir que beaucoup de gens ne croient plus au retour de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a prophétisé, d'ailleurs, qu'au temps de la fin, des moqueurs viendraient dans les derniers jours. Il dirait dans 2 Pierre chapitre 3, verset 4, 2 Pierre chapitre 3, verset 4, « Où est la promesse de son avènement ? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Donc, les moqueurs, bien entendu, ont beau jeu en voyant tous ces prédicateurs donner des fausses dates. Mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas savoir, néanmoins, maintenant, quand Jésus reviendra. Quand reviendra-t-il exactement ? Nous ne pouvons pas le prédire. Nous ne devrions pas perdre notre sens de l'urgence, notre motivation pour nous préparer, je le disais, à son retour. Et d'ailleurs, Jésus nous a bien mis en garde. Il a bien dit qu'il fallait que nous soyons bien conscients de l'exemple des gens au temps de Noé. Que dit-il au verset 38 et 39 ? Matthieu chapitre 24, versets 38 et 39. Car dans les jours qui précédaient le déluge, qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et notez bien ce qu'il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, donc à l'avènement de Jésus. Christ a même prédit et prévenu que si l'un de ses serviteurs, verset 48, mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Alors, bien entendu, ce n'est pas l'exemple auquel nous voulons ressembler. Nous voulons plutôt ressembler à l'exemple du serviteur fidèle et sage que Jésus-Christ a bien mentionné au verset 45. Verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il nous faut donc nous préparer. Alors comment nous préparer ? Là encore, Christ, dans le même chapitre, nous donne beaucoup d'instructions. Beaucoup d'instructions. Le tout, c'est de savoir comment nous pouvons utiliser judicieusement le temps qui nous est donné avant la venue de Jésus-Christ. Donc voici précisément certaines des choses que Jésus nous dit de faire. Verset 12. Revenons au verset 12 de Matthieu 24. Et parce que l'iniquité, dit-il, se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc nous faisons bien en sorte que nous ne laissons pas l'anarchie du monde nous envahir ou affaiblir en quelque sorte notre foi, notre amour pour Dieu, notre amour pour la loi de Dieu, pour ses instructions, pour ce qu'il nous demande de faire. Notre amour aussi pour notre prochain, qu'il soit converti ou non converti. Nous devons aimer l'humanité, nous devons chérir nos semblables. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, nous savons qu'à la fin, la persévérance est quelque chose dont nous aurons besoin. Il y aura des épreuves, il y en a peut-être probablement déjà maintenant. Il y aura des persécutions. Nous devons endurer ces choses pour la gloire et pour l'honneur de Christ. Et nous devons le faire jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de quoi? Jusqu'à la fin de nos vies. Jusqu'à la fin de notre existence. Comment? Eh bien, par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu, que nous avons besoin de demander. Nous avons besoin de demander le secours de Dieu chaque jour pour endurer les épreuves, pour endurer les persécutions avec persévérance. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc quelque chose va se passer, quelque chose dont nous sommes déjà une partie. Nous sommes déjà participants dans la prédication de la bonne nouvelle, du rétablissement de toutes choses, du rétablissement du royaume de Dieu sur terre. Nous aidons à l'effort de prédication de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu à la fin, au temps de la fin, donc maintenant, et nous ajoutons, bien entendu, nous obéissons à Dieu, nous ajoutons nos dîmes et nos offrandes pour continuer donc cette proclamation, pour permettre cette prédication, et nous obéissons ainsi aux instructions que Jésus-Christ nous donne. Je le disais, au temps de Noé, les gens ne se doutaient de rien. Ils mangeaient, ils buvaient, ils s'adonnaient à des choses, on va dire, naturelles dans la vie, sans se soucier que quelque chose de crucial allait arriver, allait se produire. Et dans ce contexte, l'instruction de Christ pour nous est claire. Nous ne devons pas nous laisser aller au laxisme, à la paresse, nous devons rester éveillés, nous devons continuer de prier, d'étudier la Bible. Ne nous laissons pas influencer par le monde qui s'écarte de la loi de Dieu, qui s'écarte des commandements de Dieu, qui s'écarte de la conscience même de l'existence de Dieu. C'est terrible. Donc le monde ne sera pas préparé, il sera surpris. Ne soyons pas comme le monde. Versets 46 à 48, j'en avais parlé, c'est l'exemple de ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, en opposition par rapport à celui qui dit que le maître est tarde à venir et qu'il peut se permettre de s'adonner à la boisson et finalement à un laxisme complet. Soyons plutôt au service des autres. Donc par opposition, il y a ce serviteur fidèle qui, au lieu d'être laxiste, au lieu d'être paresseux, sert les autres. Et nous pouvons servir les autres et les traiter avec amour, sans chercher à profiter d'eux. Sans chercher à profiter d'eux. Nous pouvons le faire d'une façon désintéressée, d'une façon bonne et fidèle, telle que Christ nous le demande. Donc voilà encore une autre instruction sur laquelle il nous faut nous concentrer. Vous savez, dans Matthieu chapitre 25, le chapitre suivant, c'est celui de la parabole des 10 vierges. C'est une parabole cruciale qui concerne le retour de Jésus-Christ. Prenons le temps de relire à tête reposée cette parabole dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Que nous enseigne en quelques mots cette parabole? Eh bien, qu'il nous faut nous préparer, bien sûr, nous le savons, qu'il nous faut avoir, nommément ici dans la parabole, une réserve d'huile spirituelle qui nous permet de savoir où est le chemin pour trouver donc le lieu des noces de l'agneau. Et cette huile spirituelle qui éclaire nos lampes, c'est bien entendu le Saint-Esprit. Alors comment faire? Comment faire pour avoir toujours le Saint-Esprit en nous? Le Saint-Esprit vient de Dieu. Nous devons donc prier notre Père pour que chaque jour, nous devons le faire avec zèle et certainement peut-être réserver aussi un temps solennel de sorte que nous puissions, si nous le pouvons, prier à genoux, peut-être tôt le matin, après nous être rapidement rafraîchis, coiffé aussi, parce que nous nous présentons devant le trône céleste, devant notre Père céleste, avoir ce moment, soit à genoux, soit assis, si nous ne pouvons pas nous agenouiller, et avoir au moins ce temps solennel dans lequel nous reconnaissons la gloire de notre Père, nous nous présentons poliment, et comme nous le ferions devant, je dirais, un souverain, mais là il s'agit du souverain créateur, donc nous nous agenouillons, nous nous présentons avec dignité, avec solennité. Mais cela ne veut pas dire que c'est le seul moment de prière de la journée. Nous prions chaque jour parce que nous ressentons le besoin de le faire, dans des circonstances plus diverses, plus variées, peut-être au moment de rendre grâce pour la nourriture, mais aussi lorsque nous nous retrouvons seuls et que nous avons cette possibilité de rentrer en nous-mêmes et d'appeler notre Père au secours pour une situation spirituelle difficile, peut-être pour un moment où nous nous retrouvons littéralement submergés, peut-être par les attaques de Satan, peut-être par une situation difficile, par la peine, par le chagrin. Nous désirons avoir ce secours de Dieu, et Dieu va nous secourir, et c'est cela qui est formidable. Soyons patients dans nos prières et supplions notre Dieu de donc subvenir à nos besoins. Il nous demande d'ailleurs de communiquer avec lui. Et puis il y a aussi, bien entendu, l'étude biblique. J'en reparlerai un peu plus tard. La lecture de la Bible est fondamentale. Et puis il y a aussi la lecture des articles de Vie, Espoir et Vérité qui nous fournit thème par thème des réponses à nos questions et de nombreux versets bibliques qui nous permettent de nous familiariser avec la parole de Dieu sur différentes questions de la vie. Il y a aussi les brochures particulièrement fournies et intenses dans leur description, leur explication des différents thèmes bibliques qu'il nous faut connaître. Laissons Dieu nous parler à travers la Bible. Nous lui parlons dans la prière, Dieu nous répond dans la Bible et nous avons donc cette relation avec lui. Et puis réfléchissons, méditons, comment est-ce que les choses s'appliquent dans ma vie. Voilà comment nous pouvons préserver donc le Saint-Esprit, directement en demandant le Saint-Esprit à Dieu, en demandant de renforcer ce Saint-Esprit en nous pour que nous ayons la force et que nous fassions donc preuve de sagesse, comme les cinq vierges sages. Je ne veux pas quitter ce paragraphe, en quelque sorte, sans mentionner le jeûne. Le jeûne est important, nous devons bien comprendre que c'est une façon de nous rapprocher de Dieu. N'hésitons pas à utiliser le jeûne de façon régulière, peut-être par exemple une fois par mois, ça aurait un bon rythme, à notre mesure et bien entendu dans la mesure où nous pouvons jeûner, c'est-à-dire nous priver de boissons et de nourriture au moins pendant 24 heures, si notre condition médicale nous le permet. Et puis finalement, n'oublions pas la fraternisation. Si nous pouvons nous réunir avec nos frères et sœurs, c'est alors que nous nous fortifierons les uns les autres. Nous avons en quelque sorte la responsabilité de faire vivre ces choses, de ne pas oublier ces choses. Les vierges folles avaient oublié toutes ces choses. Elles avaient en quelque sorte éteint, amoindri le feu lumineux des lampes du Saint-Esprit. Donc ranimons ces choses. Chaque jour, prenons ce temps et ces différentes activités pour ranimer le don que Dieu nous a donné, le don du Saint-Esprit. Il y a dans le même chapitre, dans Matthieu chapitre 25, une autre parabole très importante qui nous parle aussi du retour de Jésus-Christ. C'est la parabole des talents. Encore une fois, en quelques mots, quelle en est la leçon? Il existe de nombreux articles sur ce thème de la parabole des talents. Et si nous pouvions la résumer en quelques mots, que dirions-nous? Je suggère une simple phrase, utilisons fidèlement les outils spirituels qui nous sont donnés afin de pouvoir croître spirituellement. Je répète, utilisons fidèlement les outils spirituels qui nous sont donnés afin de croître de façon spirituelle. Quels outils? Je venais juste de les mentionner. La prière en premier, l'étude biblique, la méditation, le jeûne, et la fraternisation. Cinq outils qui sont d'ailleurs développés dans le livre « Les cinq outils de la croissance spirituelle » qui paraîtra, je l'espère, d'ici quelques mois. Et en fin de compte, les versets 31 à 46 du chapitre de Matthieu 25 sont souvent intitulés « Le jugement des nations ». Et là encore, c'est un nouveau passage biblique qui parle du retour de Jésus-Christ. Alors, le jugement des nations, ce n'est pas un mauvais titre. Il dit, en guise d'introduction, au verset 32, que toutes les nations seront assemblées devant le Fils de l'homme. Et les versets 35 à 40, donc Matthieu chapitre 25, versets 35 à 40, dit ceci, le roi, et c'est Christ qui parle, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, il s'adresse aux brebis qui sont à sa droite, et j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Verset 40, « À chaque fois, dit-il, que vous l'avez fait, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Que nous est-il demandé ici ? De servir le peuple de Dieu, tout simplement, ceux que nous pourrions considérer comme les plus petits parmi nous, les plus faibles, ceux qui ont besoin d'aide. Quand nous prions pour nos frères et sœurs, nous tenons-nous au courant des demandes de prière que nos pasteurs nous communiquent ? Sommes-nous au courant de ces choses ? Quand nous partageons un repas, invitons ceux qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil, bien entendu. Et puis, il y a toutes sortes de choses que nous pouvons faire pour faire du bien à ceux qui en ont besoin parmi nous. Un mot, une lettre, un message téléphonique, un appel, une visite, un moment de conversation passé ensemble. Toutes ces petites choses qui entretiennent la fraternisation, les liens qui nous unissent en tant que frères et sœurs les uns aux autres, sont autant d'actes que Jésus nous demande d'accomplir. Donc, prenons le temps de faire ces choses. Reportons-nous maintenant, si vous le voulez bien, à Luc chapitre 21. C'est l'un des trois chapitres concernant le retour de Jésus-Christ, concernant le sermon, le sermon sur le message, le discours du Mont des Oliviers. Luc chapitre 21, et rendons-nous au verset 36. Luc 21, verset 36, où il dit ceci, Luc 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Encore une fois, nous voyons les conditions dans lesquelles nous pouvons effectivement faire ce que Dieu nous demande. Premièrement, il nous est dit de ne pas rester dans l'ignorance de ce qui se passe dans les événements mondiaux, à la lumière des signes prophétiques que la Bible nous donne. Il nous faut veiller et observer les signes annonciateurs dont je parlais, les signes annonciateurs du retour imminent de Jésus-Christ et de leur manifestation. Et puis deuxièmement, Christ réitère son encouragement à demeurer dans la prière quotidienne et d'observer ainsi où nous en sommes dans notre propre état spirituel à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible. Pourquoi le retour de Christ a-t-il pris autant de temps ? Pourquoi des générations de chrétiens entières ont-elles attendu patiemment et n'ont-elles pas reçu la promesse de leur vivant ? On pourrait essayer de se mettre dans leurs chaussures. Ils sont morts dans cet espoir. Avec cet espoir, avec certainement cet encouragement, je viens bientôt. Mais ils n'ont pas reçu, en quelque sorte, nommément la promesse de voir le Fils de l'homme revenir. L'apôtre Pierre dit ceci, et il dit très précisément, il nous fait comprendre que c'est à cause de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'application, dans l'accomplissement, nous dit-il, de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc Dieu est en train d'accomplir un immense plan éternel de salut pour toute l'humanité, tous ses enfants. Il les aime. Il nous aime, il aime toute l'humanité. Et au moyen de ce plan merveilleux, Dieu donnera à chaque être humain une chance pleine et entière, gracieuse et miséricordieuse, de se repentir et de changer de vie, de changer de façon de vivre. Dieu nous donne du temps pour y arriver. Il nous donne à tous, y compris les plus faibles, du temps pour y arriver. Le salut éternel, vous savez, le salut éternel, ce n'est pas un jeu télévisé, un jeu d'Interville où nous voyons les plus faibles éliminés dans le ridicule. où les plus forts sont finalement triomphants, grâce à quoi ? Grâce à la démonstration de leurs muscles, grâce à la démonstration de leur esprit fort, de leur habileté. Non, le salut éternel, c'est une invitation à des noces, les noces de l'agneau de Dieu. Alors, que devons-nous faire quand nous nous rendons à un mariage ? Une invitation de mariage. Il nous faut nous préparer. Nous nous lavons, nous prenons un bain, une douche, nous mettons de beaux vêtements et nous nous essayons d'être à l'heure. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour cela. Il nous fournit, en quelque sorte, tout ce dont nous avons besoin, les beaux vêtements et tout. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Demandons-lui son aide. Demandons-lui d'être à nos côtés pour nous aider à nous préparer spirituellement. Demandons-lui tout ce dont nous avons besoin, y compris nos besoins physiques. Il veut que ceux d'entre nous qui ont hâte de voir le second avènement de Christ, son Fils, notre Seigneur, puissent partager cette bonne nouvelle du royaume de Dieu avec les autres en ces temps de la fin. Il veut aussi que ceux qui en entendent parler répondent à l'appel que Dieu leur envoie. Nous ne savons pas le jour, nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure du retour de Jésus-Christ. Nous ne la connaissons pas. Nous ne le savons pas. Mais il veut que nous sachions, que nous gardions dans nos cœurs, avec cette certitude, cette assurance, selon laquelle, effectivement, le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, va revenir. Celui qui se faisait appeler le Fils de l'homme. Oui, c'est Christ lui-même, le Fils de Dieu. Et il apportera son merveilleux royaume avec lui sur cette terre. Enfin, le retour de Jésus est la meilleure nouvelle de tous les temps. Il veut maintenant que nous soyons toujours au courant de l'imminence du rétablissement du royaume de Dieu, de son royaume, un royaume qui ne sera jamais renversé, le royaume de Dieu, enfin sur terre, et cette fois, pour toute l'éternité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de sabbat, et je vous dis à bientôt.